Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, ce soir, rencontre le romancier Michel Laya.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Comment s'y prendre pour parvenir, sans recul ni maturité, à peindre au mieux deux cœurs unis d'amour, d'orgueil et d'égoïsme, indifférents à un troisième, exempt celui-là de toute cruauté? La question est posée par une jeune femme d'une vingtaine d'années, jeune fille au père auprès d'un couple, et de leur fille Ludivine que leur amour délaisse. La jeune femme, d'une vingtaine d'années au moment des faits, c'est la narratrice de votre dernier roman, Michel Laya. Elle se souvient d'un épisode fondateur, de promenade dans la nature et ailleurs, et d'une certaine perte de l'innocence, dans un triangle familial où l'égoïsme et le fantastique se lient. Bonsoir Michel Laya.
Bonsoir.
Sans silquer, c'est le titre de votre nouveau roman et il est publié aux éditions Zoé. Merci d'être là.
Merci à vous.
On commence par entrer dans une maison.
La maison, c'est d'abord le lieu, c'est comme le home anglais, c'est le foyer. C'est le lieu de repérage de sa vie. Et puis, c'est le lieu où on apprend à être. Il y a une éducation silencieuse que la maison opère, c'est-à-dire que on est dans des lieux qui ont une forme, qui sont des dispositifs où les rôles sociaux sont mis en place. Les rôles masculins, féminins, par exemple, sont très codifiés dans la maison, et on apprend les gestes. On apprend les gestes recevables, les gestes désirables. On apprend à ne pas faire certaines choses, etc., dans la maison. On apprend les valeurs. Habiter nous forme. Habiter nous construit et nous aide à nous transformer. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, qu'on est sans arrêt en train de modifier les lieux dans lesquels on habite. Même parfois par un tout petit décor, mais il y a la nécessité de transformer. D'aménager, de s'approprier.
Michel Laya, on écoute la voix d'une urbaniste, Monique Eleb, une archive de 2013, où elle parle de cet espace de la maison, au centre de votre dernier roman, Sans silquer. Il y a cette maison qui s'appelle La Favorite. Et je me suis demandé, est-ce que l'écriture de ce roman a commencé, ou en tout cas, la question de la maison, de ce domaine-là, était important?
En tous les cas, je me rends compte que dans pas simplement de mes livres, la maison ou la demeure est centrale. J'ai un texte qui s'appelle La joyeuse complainte de l'idiot, qui réunit une quarantaine de jeunes gens qui sont dans une demeure, justement, qui s'appelle, voilà, c'est un lieu comme ça, où ils sont tous réunis. J'ai un autre livre qui s'appelle Deux sœurs, qui ont entre 16 et 17 ans, comme ça, et qui habitent dans une maison seule, un petit peu à l'extérieur de la ville aussi. Et puis là, de nouveau, c'est vrai, il faut croire qu'on doit avoir des sortes d'obsessions ou de choses comme ça qui viennent. On ne sait pas pourquoi elles sont là, mais enfin, en tout cas, elles surgissent. On les choisit peut-être pas vraiment. Il y a de nouveau cette maison qui oblige un peu à l'intériorité, à l'intimité. Et puis, en tous les cas, ici, c'est vrai qu'elle est, importante, cette maison qui s'appelle La Favorite, hein, qui est un petit peu là aussi à l'extérieur de la ville, à la lisière d'une forêt. La forêt, c'est l'échappatoire possible quand même. Et puis, non seulement c'était la maison qui a été le déclencheur en fait du livre, mais même une pièce bien particulière qui est la salle à manger. Et peut-être même encore plus que la salle à manger, la table où se prennent les repas, parce que je pense que le repas familial est toujours très porteur de sens, hein, nous dit beaucoup de choses sur le fonctionnement d'une famille. Comment est-ce qu'on se dispose autour de la table, qui prend la parole, dans quel ordre, ou bien des fois aussi on ne parle pas, enfin, etc. Et je me souviens que j'avais vu il y a assez longtemps de ça dans un magazine de Beaux-Arts, un reportage sur un plasticien, avec de très belles photos en noir-blanc d'ailleurs, et puis il y avait une image qui était une image d'une longue table, justement, où on voyait un couple très beau qui se faisait face au bout de la table. Et à l'autre extrémité de la table, il y avait un petit garçon, un petit peu dans une sorte de mélancolie, comme ça, avec les yeux très sombres, très noirs, qui était tout à fait à l'autre bout de la table. Et puis, cette image, je l'ai vue, puis oubliée. C'est d'ailleurs assez souvent comme ça que les choses fonctionnent chez moi dans mon écriture, dans la façon dont même les livres se structurent et arrivent. Et tout à coup, cette image est surgie, cette image de cette table, de cet univers, de cette salle à manger. Et je suis même assez sûr que c'est la première scène que j'ai écrite sans savoir forcément qu'est-ce qui viendrait ensuite autour de cela. Sauf que c'était pas un petit garçon, c'était une petite fille, mais ça mettait déjà en place cette triangulation avec cet espace géographique très bizarre, hein, occupé l'enfant s'appelle Ludivine, hein, dans le livre, hein. Silke, c'est la jeune fille qui vient s'occuper d'elle pendant à peu près 9 mois, et la jeune fille, c'est Ludivine, et elle se rend compte qu'elle est effectivement placée comme ça au bout de la table. Alors oui, la maison, c'est en tout cas quelque chose qui est presque omniprésent, enfin très très présent dans beaucoup de mes livres. Et puis je pense aussi parce que ça permet justement ce va-et-vient entre toutes ces intériorités et puis, encore une fois, la possibilité de fuir, d'aller ailleurs, vers cet extérieur qui souvent d'ailleurs est assez libératoire.
Ce que raconte Monique Hellem aussi dans cette archive, c'est que la maison, c'est avant tout une forme, ou en tout cas quelque chose qui se met en forme et qui épouse aussi la forme que prennent les habitants de la maison. Est-ce que vous faites un lien entre l'espace de la maison et vos personnages ?
Bon, l'espace peut-être, bon, je le décris assez sommairement, hein, on sait que c'est une maison, c'est un peu incongru d'ailleurs, parce qu'on est à la lisière d'une forêt, mais c'est une maison très bourgeoise, hein, qui semble être là, sortie de nulle part. Et puis peut-être la pièce prédominante dans cette maison, on aura l'occasion d'y revenir par l'activité du père, c'est l'atelier, hein. Il y a un atelier qui est immense, hein, dans lequel il travaille, voilà, c'est un plasticien, ce père, qui... Je sais pas si il faut en dire deux mots ou pas déjà maintenant, mais
on peut en dire deux mots.
Voilà, c'est un homme assez détestable, assez paradoxal, et en même temps complètement investi dans son travail de plasticien, hein, c'est-à-dire il se dévoue vraiment à l'art, à ce à quoi il croit. Tout est organisé autour de cette espèce d'investissement total qu'il a, absolu, hein, par rapport à l'art. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui passe à côté de la vie, c'est-à-dire que sa fille, il la voit pas, le monde autour de lui, on dirait qu'il lui glisse dessus comme de l'eau sur un imperméable, enfin voilà, il y a une espèce d'égoïsme, de narcissisme assez absolu chez cet être, d'orgueil comme ça assez fort aussi, et il a un atelier immense. Et évidemment, le mot atelier, il est très chargé, puisque on peut lire, on le sait, quoi, atelier, hein, on y est lié peut-être plus que n'importe qui, et avec même au fil du livre, on va se rendre compte une espèce d'impossibilité à quitter cet endroit, alors que vraisemblablement il devrait le faire. Alors, je pense que cet atelier, l'organisation de cet atelier, en tout cas les quelques éléments que je donne là-dessus, reflètent assez le côté très minutieux de cet homme, très organisé, comme ça, chaque chose est à sa place. Donc là, il y a je ne sais pas si c'est une forme, mais une organisation de l'espace qui correspond assez à ce qu'il est. Et puis, pour répondre plus globalement à votre question, je pense aussi que, de toute façon, mais là je sors du livre, dès le moment où on entre dans un espace, le simple fait de décrire cet espace, sachant que la description, c'est déjà de toute façon une forme de création, hein, nous donne déjà beaucoup d'informations sur les habitants des lieux. Voilà. Moi, il y avait justement, j'ai fait allusion à un autre livre, là, Deux Sœurs, moi j'avais été aussi très marqué parce que, enfin, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est vrai que les arts plastiques, souvent, l'écho que ça peut avoir entre mon travail et puis ce que je peux voir comme image et tout, il y a des correspondances, quoi, qui sont assez, assez fréquentes. J'avais été très frappé par les photographies de Francesca Woodman, qui est une photographe américaine qui avait passé quelques années à Rome quand elle avait 18, 19, 20 ans, qui s'est suicidée, je crois, à 21, 20, 22 ans. La Fondation Cartier avait fait une très belle exposition sur elle il y a déjà un certain nombre d'années. Et puis, quand elle était à Rome, elle avait trouvé une maison justement un peu à l'abandon, comme ça, assez vétuste, dans laquelle elle a fait des photos absolument extraordinaires, quoi, et elle a investi ces lieux, et c'est vrai que je m'étais là aussi inspiré un peu de cette maison-là.
Cette maison aussi, La Favorite, c'est un univers clos, abstrait un peu de la société, enfin reculé de la société. Est-ce qu'il vous fallait un lieu reculé aussi pour camper cette histoire-là ?
Alors c'est vrai que on ne sait pas très bien s'il y a beaucoup de monde qui vient dans cette maison. Hein. Ce couple quand même, hein, je vais quand même aussi le dire. Hein, donc il y a trois personnages, hein, le couple et puis le père, la mère et puis la petite Ludivine et puis ensuite le quatrième personnage, donc Silke qui vient s'occuper de Ludivine. Et ce couple est extrêmement fusionnel. Hein, les deux sont d'ailleurs très narcissiques aussi, me semble-t-il. Hein, fusionnel et narcissique. Vous savez, dans la boutade un peu qui dit, voilà, notre amour, nous ne ferons plus qu'un et ce sera moi. On a l'impression que chacun pourrait se l'envoyer à la tête de l'autre. Hein, donc, voilà. Et puis, donc, c'était assez commode de les mettre un petit peu à l'extérieur, d'éviter qu'il y ait trop peut-être d'interférences avec le bruit de la ville, par exemple, hein, ou je sais pas quoi, l'activité de la ville, et qu'on les voit là. Mais en même temps, bon, la mère, elle, on comprend qu'elle a une vie sociale. Le père, il est enfermé dans son atelier, hein, c'est vrai, il passe tout son temps là, mais la mère, c'est elle qui rapporte l'argent, c'est elle qui va à l'extérieur, c'est une avocate, même assez brillante, elle fait un petit peu le pont quand même avec cet extérieur, mais voilà quoi, ça s'est donné de cette manière.
Au moment de rentrer, j'ai fourré les affaires dans le sac. Avec emphase, on a respiré le parfum de trois roses comme si elles avaient été les trois dernières. Pour rejoindre le centre-ville, là où j'avais garé le scooter, il fallait prendre le métro. Nous marchions en silence. Ludivine m'a lâché la main et est partie à la course. Puisqu'elle m'avait fait la promesse de ne jamais s'écarter du trottoir, j'ai renoncé à la retenir. J'ai encore bavardé quelques instants avec un couple qui cherchait son chemin. Ludivine avait disparu. J'ai marché d'un pas rapide. Au bout de la route, les barrières du passage à niveau étaient baissées. À l'extrémité de l'une d'elles, de l'autre côté des rails, Ludivine s'était assise. Je m'agitais et faisais de grands signes. Elle ne me voyait pas ou feignait de ne pas me voir. À mon tour de courir, le métro est passé et a oblitéré Ludivine. Quand les barrières se sont relevées, je n'ai eu le temps de rien que Ludivine était perchée à 5 mètres de hauteur, cramponnée, agrippée, comme si elle avait été au sommet d'un mât de cocagne. J'étais sous elle. Pas de cri, pas d'appel au secours. Elle a lâché une main et l'a posée en visière sur son front. Il y avait de la beauté dans l'image de cet enfant, séparée du monde, suspendue en l'air et maîtresse de ses mouvements. Des badauds commençaient à se regrouper et commentaient la scène. Surtout, ne rien précipiter, ne rien exiger. Ludivine allait se laisser glisser le long de la barrière, lentement, sans crainte. Elle allait redescendre avec délicatesse, prudemment, sans se blesser. Et c'est bien cela qui s'est passé. Dès qu'elle a touché le sol, ce sont mes jambes à moi qui ont tremblé, mon cœur à moi qui a remué. Ludivine m'a pris la main comme si de rien de particulier n'avait eu lieu. C'est précisément ce jour-là que, dans ma vie, j'ai appris à dire non, et plus encore, à me méfier des promesses les plus sincères en tête.
Michel Laya, on écoute un extrait de votre roman « Sans Silke » lu par Jeanne Aléos, où on entend une narratrice, qui est donc Silke, ce personnage, qui parle. Est-ce qu'elle est apparue immédiatement aussi dans l'écriture de ce roman, cette narratrice-là, où vous vous êtes dit « il faut que ce soit Silke qui raconte cette histoire-là » ?
En tous les cas... Chaque roman qu'on commence, qu'on écrit, j'aime bien cette idée que c'est un peu comme une sorte d'autobiographie du possible. C'est-à-dire que voilà, j'avais envie que ce soit une jeune femme qui a dû faire le deuil de son enfance déjà, puisqu'elle a 19 ans, mais en même temps c'est une époque dont elle se souvient plus vraiment. Qui permettent une proximité. Ludivine, elle a 10 ans, hein, donc voilà, elles sont quand même relativement proches l'une de l'autre. Et puis j'avais envie de cette complicité peut-être féminine comme ça pour contrebalancer le poids encore, comme je disais tout à l'heure, du couple fusionnel est assez cruel, hein, dans le sens où cette espèce de de bonheur insolent dans lequel les parents sont perpétuellement, c'est un peu comme une sorte de scène primitive permanente qu'elle aurait sous les yeux, Ludivine. Il n'y a pas besoin de trous de serrure, vous voyez. Voilà,
ça éclate,
ils exposent ce bonheur de manière un peu éhontée. Et Silke permet justement les échappatoires, permet d'aller à l'extérieur, c'est le cas ici, hein, puisqu'elle l'emmène à la ville, sans qu'on sache où c'est, peu importe, dans un parc, mais à la ville. Et puis, et donc, oui, je parlais de cette complicité comme ça qui peut se mettre en place. Oui, j'avais envie de cette figure féminine. Moi, j'aime bien toujours aller chercher des choses dans des expériences, évidemment, quoi, des émotions que j'ai pu vivre, tout en sachant et tout en étant même assez sûr que la création littéraire peut avoir lieu seulement quand on transforme et quand on déforme ses souvenirs, quand on les tord, hein, d'une certaine manière. La fiction, c'est peut-être réussir à tordre le souvenir, quoi. Mais par exemple, il se trouve que je me suis pendant 3 semaines occupé de petits-enfants qui avaient 7 et 10 ans, justement, où je passais alors moi tout mon temps avec, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici de Silke, mais je suis aussi allé chercher des souvenirs, des impressions à l'intérieur de cette expérience. Mais je me voyais pas tellement mettre la narration dans la bouche d'un homme, quoi. J'avais envie de cette complicité féminine. Et en même temps, quand je parle d'autobiographie du possible, vous voyez, évidemment, je suis pas une femme, jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, ce décentrement est toujours intéressant. C'est même peut-être une des choses les plus intéressantes à faire quand on recommence un livre, quoi. C'est d'aller vers une forme d'inconnu. Et puis de voir un petit peu ce qui s'y passe.
Silke, c'est aussi quelqu'un qui voit les choses, qui assiste souvent à des scènes comme ça. Donc là, il y a l'enfant Ludivine qui est accroché à la barrière, et des scènes qui sont souvent imbées d'une forme de mystère. Est-ce qu'il fallait aussi qu'elle soit quelque chose comme un témoin?
Alors en tout cas, elle a cette fonction de témoin. Et bon, rétrospectif, hein, parce que effectivement la narration, elle l'a fait 20 ans après. Et puis il y a aussi cette idée, voilà, c'est pas qu'il y ait beaucoup de suspense dans le livre, mais c'est qu'à un moment donné, il y a quand même cette espèce d'obligation à dire, de nécessité à dire. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui m'importe quand même. Alors bon, voilà, je sais pas après si j'ai réussi ou pas, mais moi, je me contrains jamais à faire un livre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que le livre vous appelle. Vous savez, un peu caricaturalement, s'il fallait faire deux grandes catégories d'écrivains, des fois, je suis un petit peu frappé de voir qu'il y a des écrivains qui, ça empêche pas parfois d'écrire de bons livres, je pense, mais qui sont toujours en quête de sujet, hein, qui se disent, tiens, ça ferait un bon sujet de roman. Et puis, il y a des sujets où il y a des choses qui viennent à vous, quoi, sans que vous alliez les chercher, quoi. Et en fait, à la fin du livre, on va comprendre que Silke, elle a une sorte de besoin impérieux de raconter les 9 mois qu'elle a passé dans cet endroit pour peut-être essayer d'y voir un peu plus clair, encore que on peut se poser la question de savoir si les mots, la littérature éclaircit toujours les choses ou si parfois elle les obscurcit pas encore un peu plus, d'où la phrase finale du livre.
Est-ce qu'il y a un sujet justement qui vous a surpris dans ce roman en l'écrivant?
Mais en fait, pas mal de choses, parce que le livre que j'avais écrit avant celui-ci est consacré à un artiste qui est vraisemblablement un des plus grands dessinateurs du XXe siècle, qui s'appelle Louis Souter, et qui est un livre qui m'a demandé beaucoup de recherches, d'aller consulter des archives,
une documentation.
Voilà, c'est la première fois que j'étais confronté à ça. Et ensuite, bon, voilà, j'avais mis en place mon plan avec beaucoup de vide à remplir. Les choses se faisaient de manière assez méthodique, comme ça. La méthode n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de surprises aussi qui surgissent. Mais ici, sur Sans Silke, peut-être plus encore que presque tous les autres livres, c'est un livre qui m'a un peu échappé, quoi. C'est-à-dire que les choses arrivaient sans que je sache très très bien comment, presque comme si elles étaient plus chuchotées et murmurées qu'elles arrivaient pas dans un grand fracas comme ça. Elles arrivaient avec passablement de douceur. Et c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai essayé de les recueillir en quelque sorte, en essayant de mettre en place une écriture assez simple, tout en sachant que peut-être écrire simplement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais avec une forme de fluidité comme ça, qui est évidemment le résultat de j'ai pas parlé de mon travail, mais enfin, quel résultat d'une recherche, parce que d'abord, l'écriture, elle est plutôt embarrassée, elle est plutôt pleine de scories, donc on s'en débarrasse. Et je sais plus ce que je voulais dire maintenant. J'ai perdu le fil.
Il fallait se débarrasser. Ouais. En tout cas, vous avez pas eu l'impression d'être embarrassé dans l'écriture de ce livre?
Non, oui, c'était comment les choses sont arrivées. Donc voilà, c'était ça la question. Hein. Est-ce qu'il y a eu la surprise? Alors oui, il y en a eu beaucoup, quoi. Parce que ensuite, tout à coup, je sais pas, c'est des petites choses, mais à un moment donné, le père a une attitude absolument ignoble, c'est-à-dire que
la scène avec les dessins.
Ouais, exactement. Il y a le ballon, il y a les dessins qui sont d'une cruauté incroyable.
L'enfant dessine
et Ludivine a fait plein de dessins qu'elle a scotché contre son mur. Et puis lui qui est l'artiste, hein, c'est lui l'artiste de la famille. Il arrive et il se moque de la girafe en disant qu'elle a un coup de télescope, etc. Et puis donc il est dans le sarcasme, dans l'ironie et l'ironie, elle est presque toujours blessante, alors que l'humour peut souvent soigner, peut faire du bien. L'humour, même dans un état d'invincibilité, le temps en tout cas de l'humour, avec Ludivine et Silke, il y a de l'humour. Le père, lui, il est plus dans l'ironie. Et donc, elle va déchirer ce dessin, parce que voilà, il y a une sorte d'humiliation, hein, qu'il pratique sur sa fille. Et puis après, il va quand même, pour une fois, avoir un peu mauvaise conscience et se rattraper en proposant des samedis à l'extérieur, quoi, voilà, de prendre un petit peu en charge des activités avec sa fille. Et là, par exemple, il l'amène en Gruyère. Alors en Gruyère, c'est en Suisse, voilà, vous connaissez le fromage, mais il y a aussi un château, et puis c'est un bourg médiéval, et dans ce bourg médiéval, il y a une maison qui s'appelle la maison du Chalamala, qui était un petit peu le fou du comte, hein, l'équivalent du fou du roi, mais c'était un comte là-bas. Et puis Ludivine va malaxer ce mot de Chalamala, là, voilà, elle aime s'en remplir la bouche, hein, le dire et le redire, dans ce qu'il peut y avoir de jouissif à la prononciation d'un mot comme ça qu'on aime bien. Et puis tout à coup, c'est quelques pages dans le livre, mais vous voyez, encore une fois, c'est un souvenir d'enfance, quoi, parce que quand j'étais môme, mon père a acheté un poulailler en Gruyère, vous voyez, un poulailler. Depuis le poulailler, on voyait le château, et puis le poulailler, on l'a retapé, comme ça, et puis on allait ensuite, une fois qu'on a bien retapé, ça a pris du temps, évidemment, quoi, ce poulailler dans lequel je pouvais inviter des copains, des copines, c'est très agréable. On allait prendre les petits déjeuners le dimanche, quand on allait en week-end en Gruyère, là-bas, dans un café qui était en face de cette maison du Chalamala. Et puis voilà, c'est la surprise, c'est tout à coup ces éléments, comme ça, qui arrivent, quoi, sans qu'on sache trop comment ça se passe, mais encore une fois, j'aime bien pouvoir inventer des personnages dans toutes les directions possibles, mais finalement que ça prenne aussi appui sur des choses qui ont à voir avec la ligne de ma vie, quoi.
Enfin, j'ai voulu, voyez-vous, faire deux époux qui vivent selon une très belle formule anglaise que l'on cite souvent et qui est la plus belle du mariage, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'on est uni ainsi, eh bien alors là, en effet, il n'y a pas de terme au mariage, sauf la mort, il n'y en a pas d'autre.
Vous voyez, mes chers auditeurs, que Irène Némirovski, loin de faire le procès du mariage, comme certains critiques ont cru pouvoir le lire entre les lignes de son roman 2, propose pour les jeunes gens d'aujourd'hui une formule qui leur permettrait d'avoir une vie très belle, très élevée, très noble.
Devant la salle à manger, j'ai lancé un regard rapide. La scène que je découvrais m'a obligé à fermer les yeux. Les paupières closes, j'ai réfléchi quelques instants. Avais-je bien vu? Et si mes yeux m'avaient trompé? J'ai regardé de nouveau. Ludivine, le front appuyé sur un poing, penchée sur son assiette déjà vide, se tenait tout au bout de la longue table en bois massif, tandis que ses parents étaient assis à l'autre extrémité, face à face, se parlant à mi-voix. Ludivine était donc punie. Quel méfait avait-elle pu commettre? Tout comme moi, elle ne voyait ses parents que de profil. La mère, vêtue d'une robe bleue et satinée, laissait rayonner la chair de ses bras. Le père, dans sa chemise noire, strictement boutonnée, n'était pas moins élégant, tout à la fois robuste et efféminé. Père et mère mangeaient sans précipitation et se caressaient parfois la main, deux âmes tendues l'une vers l'autre, soudées dans leur bulle d'amour. Cet ordre heureux des choses ne laissait place à personne et moins encore à une enfant punie. La résignation de Ludivine et son assentiment muet m'agaçaient. Pourquoi ne prenait-elle pas le risque de quitter la table ?
Michel Laya, on écoute la lecture par Jeanne Aléos d'un autre extrait de votre roman « Sans silquer » qui fait suite à une archive avec la voix d'Irène Némirovski qui parle de la question du mariage avec cette phrase « Le mariage est pensé pour le meilleur et pour le pire, en tout cas pour les époux ». Est-ce que avec le portrait de ce couple, vous avez eu l'impression de vous être confronté à justement cette chose-là, l'institution du mariage, ou est-ce que c'était vraiment le couple qui vous intéressait ?
Ce qui m'intéressait peut-être... Oui, c'était le couple plus que l'institution du mariage, parce que comme je l'ai dit, il y a une nouvelle de Barbet d'Aurevilly qui s'appelle Le bonheur dans le crime, mais il y a presque un écho à ça. Il y a une autre forme de bonheur dans le crime, c'est-à-dire que souvent on voit dans les romans familiaux, hein, faut être un peu fou et stupide ou inconscient pour s'attaquer à un roman familial, enfin écrire un roman familial.
C'est ça que je me suis dit en lisant ce livre. C'est un roman familial et ouais, que c'est pas qu'une forme si fréquente en fait. Enfin, de se confronter à ce problème-là à nouveau comme a pu le faire justement au 19e siècle.
Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être. Ouais. Mais enfin voilà. Encore une fois, c'est arrivé comme ça, donc je refuse pas ce qui vient. Mais souvent, on voit un couple en crise. Voilà, les parents ne s'entendent plus, et de cette mauvaise entente, ou discorde même totale, il y a de la souffrance qui peut déteindre sur les enfants, ou sur un enfant. Et en fait, ici, le paradoxe, c'est que c'est inversé. C'est-à-dire que les parents ne s'entendent que trop bien. Encore une fois,
ils sont dans leur bulle d'amour.
Ils sont dans leur bulle d'amour, et c'est ça éventuellement. Enfin voilà, Ludivine se débrouille comme elle peut, mais qui peut engendrer de la souffrance chez elle parce que sans le lui dire directement, mais indirectement, à plusieurs reprises, on lui dit des choses comme disparaît. Ne soit pas là, n'existe pas. Donc il y a une violence quand même assez inouïe derrière certaines scènes qui, voilà, par la bande, de manière, j'espère, pas trop frontale, mais enfin, viennent dire quand même ce genre de choses. Et puis peut-être même encore pire chez le père, quoi, qui est vraiment une figure, voilà, peu recommandable.
Vous l'avez vraiment vécu comme une figure peu recommandable, de bout en bout.
C'est-à-dire oui et non, parce que en même temps, j'aime bien mettre toujours en scène aussi des personnages auxquels j'ai pas envie de ressembler, quoi, ou des personnages auxquels je sais qu'il faut qu'on fasse attention de pas ressembler, parce qu'on peut tous être guettés par son orgueil, son narcissisme, sa façon de monopoliser toute l'attention. Voilà, c'est quelque chose. On peut tous se sentir concerné par ça, et d'autant plus quand on est dans le monde de la création. Hein. Moi, je suis des fois un petit peu quand même effaré de voir comment certains artistes, parce qu'ils sont artistes, auraient en fait le droit de se comporter à peu près n'importe comment avec leur entourage ou avec les gens qui les côtoient. Il y a une position des fois qui est quand même assez insupportable. Et c'est insupportable même quand on produit une œuvre de grande qualité, mais quand en plus, comme c'est le cas ici, on va se rendre compte que vraisemblablement la production artistique de cet homme est assez quelconque, quoi, assez médiocre, donc ça devient encore plus pénible.
La forme de violence que suscite le couple, vous disiez par la bande à l'instant, c'est vraiment ça, c'est une forme de violence qui est presque différé, ou que l'enfant ne reçoit pas, en tout cas, comme une forme de violence immédiatement, puisque ça reste ses parents, et finalement, ce à quoi on assiste, et ce à quoi Silke assiste dans cette scène, c'est une scène de bonheur.
Oui, mais il y a l'indifférence, il y a comment dire ça? Je crois que pour pouvoir être, il faut être aimé, ou il faut être haï, peut-être plein d'autres choses, mais enfin, c'est ça. Et l'indifférence, le père fait preuve assez souvent d'indifférence vis-à-vis d'elle. c'est peut-être la chose la pire que l'on puisse subir. C'est peut-être moins pire de voir, de lire du désir dans les yeux de son père que de ne rien y lire du tout. Et là, on a l'impression parfois que Silke ne lit rien dans les yeux de son père. Pas toujours, hein, je ne vais pas tomber dans... Voilà, c'est peut-être aussi les... Silke se souvient peut-être, Ludivine, pardon. Enfin, Silke se souvient des scènes les plus saillantes aussi. Hein, c'est pour ça. Entre ces scènes, il y en a peut-être d'autres où les choses vont mieux.
Est-ce qu'avec se confronter, en tout cas, à cette idée de la d'une possible indifférence de parents envers leur enfant, est-ce que vous avez eu l'idée de vous être coltiné quelque part un tabou?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose. J'ai pas pensé. Vous savez, voilà. Heureusement, quand on écrit, on sait pas trop quoi.
Oui, ça apparaît comme ça.
On devine peut-être un peu. Voilà, je devine peut-être, mais je sais pas quoi. Et heureusement que je sais pas trop. Il y a peut-être celui-ci. Il y en a peut-être d'autres de tabous aussi, parce que la mère, elle est aimante quand même vis-à-vis de sa fille. On comprend que c'est une belle femme. Et puis son problème. Et là, je pense qu'il y a aussi un vrai tabou peut-être, c'est que cette fille n'est pas une rivale à sa hauteur. C'est-à-dire que voilà, c'est cette fille, elle est la petite Ludivine, elle est peut-être pas très jolie, elle est pas.
Il y a une scène où elle se rend compte que finalement, oui, sa fille ne sera pas une belle jeune fille.
Voilà, exactement, ça sera pas une belle jeune fille. Elle est pas aussi séduisante qu'elle. Vous savez, des fois, quand on est au café ou dans le métro ou n'importe où, on voit des familles et parfois on voit des... Voilà, c'est superficiel, mais en même temps, c'est ça qu'on voit. On voit un couple assez laid et avec un enfant très beau. Et on se dit, bon, ben, quelle chance il a ou elle a eu, quoi. Mais c'est plus dur et c'est peut-être plus tabou le contraire. C'est-à-dire où on voit un couple qui serait très beau avec un enfant qui est laid. Et la mère... elle est consciente qu'elle peut pas aimer, c'est affreux, hein, qu'elle peut pas aimer cette fille autant qu'elle le voudrait à cause de cette petite antipathie physique, d'une certaine manière. Elle est consciente de ça, ça la fait souffrir et en même temps, elle peut rien y faire. Et là, il y avait quelque chose aussi dans le livre, d'une manière globale, qui m'intéressait, c'était que je veux pas non plus porter de jugement sur ces personnages parce que pour moi, ils sont tous un peu emprisonnés ou prisonniers de leur situation. C'est-à-dire, c'est difficile de sortir de ces choses qui sont là, qu'on maîtrise pas ou qu'on a construites et qu'il faudrait renier. Enfin, voilà, c'est pas si évident.
Ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est la construction en chapitres de ce récit qui sont vraiment des scènes. Et des scènes, la plupart du temps, vues par Silke. Et Silke, à un moment, elle devient, par la suite des événements, une photographe. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous les aviez conçues? Une succession de scènes?
Bon, ce qui a dicté le fait d'avoir ces chapitres assez brefs comme ça, c'est toujours le temps d'écriture à disposition.
C'est-à-dire
dans le sens où quand j'ai écrit par exemple Le Sous-Terre, qui est un livre quantitativement plus important, j'avais tout mon temps. Voilà, j'avais pas d'autre, il y avait pas grand chose qui venait contrarier la possibilité d'écrire. Tandis que, bon, ben voilà, comme tous les écrivains, je passe la grande partie de mon temps à ne pas écrire, et par exemple à gagner ma vie, et donc le temps à disposition, il est plus ou moins important selon les livres. Ici, j'avais pas beaucoup de temps, donc il fallait que je puisse comme ça maîtriser quand même une scène, pouvoir en sortir, aller jusqu'au bout, la clore, quoi, d'une certaine façon. Donc il y a ça. Mais maintenant, j'ai l'impression que je suis quand même tellement influencé par tout ce qui vient des arts plastiques que en tout cas votre idée d'imaginer ça presque comme des sortes d'images ou de tout petits films comme ça très certainement, oui. Spend it all, the have nots. Money, we make it. Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, say living. Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Michel Laya.
Nous marchons, ceux qui peuvent marcher marchent. Bien, il y a un art de la marche. Cet art de la marche, ça peut être le pas militaire. Il y a des gens qui sont rétifs au pas militaire, ils ne savent pas l'art militaire de la marche, la manière militaire de marcher. Il y a aussi la danse, qui devient un art de se déplacer du point A au point B et d'utiliser ce déplacement physique pour créer une forme fugitive et rythmée, etc. Bon. Eh bien, le maniérisme, c'est l'art de la manière. C'est l'art de la manière de faire quelque chose. Et l'idée est extrêmement simple et très efficace, parce que elle indique, et Klein le développe magnifiquement, elle indique que, alors que, disons, la Renaissance classique s'intéresse au sujet, au quoi, qu'elle représente, et à faire que ce sujet soit si possible clair, lisible, intelligible, ça sera une des données du classicisme fondamentalement. L'art di maniera s'intéresse au comment représenter ce quoi, et ce simple glissement d'accent du sujet à la façon de le représenter, eh bien, se engage toute une série de paradoxes fascinants, d'ailleurs par rapport à ce qu'a été très brièvement l'apogée classique de la Renaissance et à ce que redeviendra le classicisme au XVIIe siècle.
Michel Laya, on entend une archive, la voix de Daniel Arras dans ses histoires de peinture en 2003 sur France Culture, où il donne cette définition du maniérisme, cette distinction entre le comment et le quoi. Le maniérisme s'intéresse davantage au comment qu'au quoi. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, avec ce point de vue en lien avec votre écriture?
Bon, en tous les cas, peut-être ça va varier encore une fois d'un livre à l'autre. Ici, si je prends une autre image, peut-être que l'écriture, c'est comme un verre. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était ce qu'on allait mettre dans ce verre. C'est-à-dire, c'était vraiment le sens de chacune de ces histoires. Donc c'était quand même plus le quoi que le comment qui prenait le dessus. Voilà, si vous buvez un bon vin, vous allez peut-être oublier le verre dans lequel qui vous sert de support pour le boire. Donc voilà, mais c'est vrai aussi que parfois, c'est difficile de les dissocier. Mais ici, voilà, je dirais quand même ça.
Quelle place ils occupent les arts plastiques dans votre lien avec l'écriture?
Ben, j'ai découvert à un moment donné ce mot. L'exphrasis, quoi, voilà, une description d'objets réels ou imaginaires qu'on peut faire. Et c'est vrai que je pense que depuis que j'écris, il y a eu cette espèce de volonté de voir comment est-ce qu'on pouvait passer d'un art à l'autre, ou en tout cas des images à la parole, au langage. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Il y avait une allusion tout à l'heure aussi à la danse. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez passionnant. Ça me paraît très très compliqué de voir comment est-ce qu'on peut mettre des mots sur la danse, quoi. Peut-être mettre des mots sur des dessins ou sur des peintures ou sur des œuvres plastiques, c'est plus, enfin, en tout cas pour moi, plus facile. Donc c'est quelque chose qui est très très présent. Je ne vais pas vous faire la liste de tout, mais enfin, ça me prendrait trop de temps. Mais ça commence avec, on peut d'ailleurs voir encore à Paris actuellement la Judith et Holoferne du Caravage, dans cette espèce de théâtralité tragique, ce moment absolument extraordinaire où justement Judith est en train de trancher la gorge d'Holoferne, et c'est le dernier instant de vie que Caravage est en train de saisir. C'est le seul qui va faire ça dans cette représentation. C'est quelque chose de tout à fait fou et exceptionnel. Ben, par exemple, ce tableau-là, j'ai eu envie de mettre des mots sur plusieurs pages pour en parler. Mais après, il y a une liste très longue comme ça, donc presque tous mes livres, comme ça, il y a des descriptions d'œuvres qui jouent un rôle plus ou moins important. Et puis, pas seulement des œuvres anciennes, mais aussi des œuvres contemporaines. J'ai parlé au début d'émission de Francesca Woodman, mais aussi même des petites vidéos dans Les Deux Sœurs, justement. Je fais une description assez longue d'une vidéo extraordinaire de Pupi Lothieriste qui s'appelle Ever is Over All, où on voit une jeune femme en train de marcher dans une rue sur une musique assez hypnotisante, comme ça, et qui a en main ce qui ressemble à une batte de baseball et qui fracasse des vitres des voitures qui volent en éclats. Et derrière elle s'approche un personnage qui devient de plus en plus net, qui s'avère être une policière assez baraque comme ça, qui arrive à sa hauteur et on s'attend logiquement à ce que, je sais pas, elle l'interpelle et autres. Et en fait, la policière la dépasse, la jeune fille qui est toujours en train de détruire les vitres des voitures, et elle lui fait un petit salut amical comme ça et continue sa route. Voilà, donc des œuvres assez déroutantes. Et puis ça peut même être parfois le cinéma. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir eu envie de saisir comme ça des scènes de cinéma et de mettre des mots dessus. Donc c'est quelque chose qui est très présent, et puis peut-être c'est un peu bizarre de dire ça, l'apogée entre guillemets de cette histoire là ça a quand même été ce livre autour de, encore une fois, de Louis Souter, où j'ai voulu varier les points de vue sur les dessins de Souter, c'est-à-dire voilà, on va lire le point de vue de comment Giono regarde un dessin de Souter, comment Le Corbusier regarde un dessin de Souter, comment Souter lui-même regarde un dessin, comment quelqu'un qui n'y connaît rien regarde un dessin. Donc c'est une espèce de variation comme ça. Donc oui.
C'est lié à la description pour vous, fondamentalement, l'enjeu littéraire par rapport à l'image, il est de l'ordre de la description.
Alors en tout cas, la description, elle est encore une fois, elle est importante parce que je pense qu'elle peut être très très créative, et puis surtout elle fait peut-être émerger des choses. Elle oblige à une très très grande attention, quoi. Elle pousse à cette très très grande attention, la même attention que le traducteur peut avoir, par exemple, quand il traduit un livre, quoi, qui fait qu'il va s'arrêter sur chaque détail, et puis en même temps oublier ces détails, et puis revenir au point de vue global. Mais il n'y a pas que la description, hein. Si je reviens sur Souter, lui, iconographiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc il faut trouver d'autres moyens de transposition, et ça passe par une langue, encore une fois, qui devient la plus adéquate pour encore une fois passer de cet art à l'autre, quoi. C'est difficile d'en parler.
Dans la succession de chapitres de ce dernier roman, Sans Silquet, ça produit justement quelque chose, à la fois cette description et cette succession de scènes, la plupart du temps enregistrées et vues par Silquet, sur le temps. C'est-à-dire qu'on a un effet de suspension du temps, et en tout cas, on a l'impression que la période pendant laquelle a lieu l'intrigue de ce roman s'étire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, l'écoulement du temps, en tout cas?
Bon, en tous les cas, pour moi, ça a été assez important à un moment donné de donner quelques signes, malgré tout, qui permettent un petit peu de s'y retrouver, soit avec, il y a tout à coup...
Dans une chronologie,
quoi. C'est-à-dire que ça commence au mois de septembre, ça se finit au mois de juin, donc il y a des signes comme ça qui sont distillés, qui permettent de s'y retrouver. Donc j'avais envie de cette chronologie. Et puis après, bon, c'est toute la question, au temps, là on en aurait pour des heures, hein. C'est-à-dire, voilà, dès le moment où on a pris conscience que nous sommes mortels, ça produit passablement d'œuvres d'art et de littérature.
Est-ce que vous avez le sentiment de faire des images en littérature? De produire des images?
Je ne me suis jamais posé la question en ces termes, mais si ça fait image, tant mieux. Ce serait une sorte de... rendu pour un donné, quoi, ou enfin, vous voyez, ça pourrait une sorte de dialectique comme ça, de va-et-vient.
C'est à toi de creuser parce que tu es la plus forte. Elle avait la voix grave, le cou tendu et une main dans le bas du dos. La taquiner aurait été malvenue. Même si la terre, molle malgré le froid, offrait peu de résistance, de la sueur tombait depuis mon front sur mes lèvres. D'apercevoir un tissu rouge a soulagé ma peine. Avec les mains, Ludivine a écarté la terre et a saisi le tissu fermé par un nœud. On aurait dit un baluchon d'enfant. À l'intérieur du tissu, il y avait un tas de pièces. Pas n'importe quelle pièce. Des pièces en or, du vrai or, comme dans les contes ou les livres d'aventure. Ce sont des vrais Neuilly et des Napoléons, 158 exactement. Ludivine jouait avec les pièces, les laissait couler d'une main à l'autre, les faisait tintinabuler, puis elle les a replacées au centre du tissu et s'est agenouillée de nouveau. Ses doigts palpitaient et grattaient la terre comme des griffes. Du trou, elle a sorti un second tissu, noir et plus épais. Ça, c'est à moi. Délicate, elle a déplié le tissu. J'ai découvert trois morceaux d'écorce différents. Ludivine les a pris, les a frottés et les a respirés. Les trois morceaux d'écorce sont talismans, cornes d'abondance, sommaires de vie. Comme hypnotisée, elle les a ensuite plaqués contre sa gorge, les a maintenus là et a fermé les yeux. Ce sera notre secret. Le secret de Silke et de Ludivine. Si un jour tout disparaît, il restera le trésor. J'ai caché mon étonnement et n'ai rien voulu savoir de plus. Ludivine a remis les baluchons à leur place, a rebouché le trou et a déposé sur la terre des feuilles brunes et jaunes. Les oiseaux, silencieux jusque-là, s'égosillaient et admiraient la besogne. Les traces de notre passage s'étaient effacées. Une brume légère avec laquelle on aurait voulu se débarbouiller le visage venait de se lever. Nous marchions en silence. À l'approche de la favorite, Ludivine s'est arrêtée, les deux poings fermés contre sa poitrine. Elle a contemplé la maison avec un air de défi et de douleur. À toi aussi, il t'arrive de penser que les doigts d'une de tes mains sont des allumettes et la paume de l'autre est un grattoir?
Michel Laya, on écoute un nouvel extrait lu par Jeanne Aléos de votre roman « Sans Silke » où on entend à la toute fin de ce texte quelque chose qui relève d'une forme d'intuition ou en tout cas de question d'enfant. Est-ce que c'était un enjeu pour vous aussi d'écrire le point de vue de l'enfant avec le personnage de Ludivine ? Et notamment des questions d'enfant, très concrètement.
Même si je suis pas tout à fait sûr que toutes les questions ou toutes les paroles qui sont retranscrites de Ludivine, un enfant de 10 ans pourrait véritablement les avoir. Là, il y avait peut-être aussi parfois un peu une allusion au conte ou alors partir dans quelque chose d'un petit peu plus irréel, voire onirique, quelque chose de cet ordre-là. Mais en même temps, oui, on ne sait pas s'il peut les avoir, mais peut-être bien qu'il peut les avoir.
C'est un espace possible, en tout cas.
C'est un espace possible et je fais allusion à une... Enfin, voilà, il y a des petites phrases comme ça que Ludivine prononce. Il y en a une autre que j'ai piquée à Pessoa. Enfin, je le laisse plus ou moins entendre, où Pessoa est émerveillé par une enfant qui dit « j'ai envie de larmes ». Et puis, c'est vrai que parfois, les enfants sont capables comme ça de sortir des espèces de fulgurances poétiques, ça veut pas dire grand chose, mais enfin qui vous frappent et qui sont extraordinairement belles. Et puis j'avais envie que Ludivine ait cette faculté là, cette capacité là. Alors après bon voilà, il faut essayer d'aller chercher des choses qui fassent sens.
Ça peut être poétique au sens concret de remettre des choses en rapport qui n'ont pas de rapport d'habitude. Par exemple une main, une boîte d'allumettes.
En tout cas, c'est une belle définition de la poésie. Hein. C'était celle que Bouvier relevait une fois quand il était, je sais plus, quand il raconte cette anecdote. J'ai eu la chance de croiser une deux fois Bouvier.
Nicolas Bouvier.
Nicolas Bouvier, ouais. Et puis, il y avait un colloque de poètes, justement, où on essayait de définir ce qu'était la poésie. Et à un moment donné, il y a un bûcheron qui s'est levé, comme ça, un type qui écrivait des poèmes, et qui a dit, la poésie, c'est quand... deux mots qui se sont jamais rencontrés se rencontrent. Ça va exactement dans le sens de ce que vous dites, quoi. Deux mots, deux choses, quoi. Oui, je pense que c'est une belle définition de la poésie. J'ai pas pensé en mettant le grattoir et la main, enfin les allumettes, mais ça me va très bien.
Est-ce que il vous fallait aussi raconter cette histoire dans l'histoire qui lie Ludivine à Silke, une histoire d'amitié? Est-ce que vous aviez envie aussi de raconter ça?
Même si dans le fond, je ne sais pas, je ne me rends pas très bien compte ce que le lecteur perçoit de cette rencontre entre ces deux, enfin, entre cet enfant et cette jeune fille. Mais l'amitié, j'ai quand même l'impression que ça reste une des rares choses qui fasse que ça vaille la peine de poursuivre notre parcours sur cette terre, quoi. L'occasion de parler d'amitié, de rendre compte de relations d'amitié, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Et même si, bon, voilà, elle va durer ce qu'elle va durer, hein, puisque elles vont se perdre de vue, ces deux-là.
On entend aussi la question du trésor, c'est-à-dire elle planque un trésor au pied d'un arbre qui est constitué à la fois de pièces d'or et en même temps d'écorce. Et les écorces, les arbres, enfin les arbres et plus spécialement les écorces, c'est un élément qui revient extrêmement souvent dans ce livre-là. Pourquoi ?
Je sais pas, je pourrais pas vous répondre.
C'est lié à la...
En tout cas, pour le trésor et les écorces, c'était un petit peu la... je crois que c'est Oscar Wilde qui disait on est dans une société où on connaît le prix des choses mais pas leur valeur. Alors voilà, les Friendly, les Napoléon, c'est le prix, les écorces, c'est la valeur, et cette valeur, elle est bien supérieure au prix. Donc il y avait cette espèce de mix comme ça entre deux choses qui ont encore une fois rien à voir.
C'était lié à la nature, à une envie aussi de décrire la nature.
Oui,
par le biais de l'enfant.
Je pense que c'est oui. Ben, c'est vrai que je vous parlais de la gruyère là tout à l'heure. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à grimper dans les arbres, à être dans les forêts, à gratter la terre, à enfouir des choses comme ça. Et je pense que c'est un petit peu ce contact avec la. Ben, mon grand père était paysan aussi, quoi. Quand j'étais môme, il y avait encore la ferme avec les bêtes, avec les terrains, etc. Donc ce contact, ben, je l'ai pas eu autant que mon père, mais enfin je l'ai quand même eu. Et il est. Et bah, il reste important, il reste gravé. Et puis c'est vrai que la Suisse où j'habite a cet avantage, c'est que bon, les villes sont relativement petites, mais vous faites un quart d'heure de n'importe quoi, moyen de transport, et vous vous retrouvez en pleine campagne, quoi. La campagne, vraiment, le contact avec la campagne est très très facile et très vite accessible. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Mais je me rends compte aussi que par rapport aux arbres, c'est bizarre, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un livre dans lequel il n'y a pas des enfants ou quelqu'un qui monte aux arbres, quoi. L'idée d'élévation peut-être aussi. Bon, voilà, en même temps, ça pourrait paraître un peu cucu parce que ça devient très à la mode, hein, cette histoire d'arbres. Il y a beaucoup de livres qui s'écrivent là autour, mais que j'ai pas lu, mais je suis sûr que ça va être très très passionnant. On se rend quand même compte que nous qui pensons tout dominer, et ben voilà, les plantes, les arbres ont une vie qui est certainement aussi passionnante que la nôtre, différemment.
Il y a un mot qui est employé par Ludivine à un moment, c'est le mot sorcière. Toutes les deux, on est un peu comme des sorcières. Elle dit quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez pensé, en tout cas sur le lien entre ces deux femmes, enfin une enfant et une post-adolescente, qu'elles aient en tout cas une dimension qui peut relever du fantastique?
Oui, là où du fantastique peut-être pas, j'ai peut-être plus l'impression encore une fois c'est l'histoire de magie, ouais, de conte de magie, ouais. Je préfère le magique au fantastique.
Pourquoi ?
Parce qu'à un moment donné, c'est véritablement quitter de manière radicale le réel. Dans le fantastique, il y a toujours un ancrage dans le réel. Dans la magie, à un moment donné, on quitte ce réel définitivement. On est dans tout à fait dans une autre sphère, un ailleurs absolu.
Est-ce que vous avez eu l'impression, avec ce roman, d'écrire quelque chose sur la fin de l'innocence ? Ou sur une forme de perte d'innocence ?
Peut-être pour Silke. C'est-à-dire que ce qu'il aurait pu rester de son, ce qui restait encore un peu les bribes de son enfance, là vraisemblablement que ça s'est perdu. Ludivine, elle est trop petite, je pense qu'elle aura encore quelques années devant elle à être dans une forme d'innocence peut-être.
Et ce serait peut-être pour ça qu'elle revient sur cet épisode 10 ans après, 20 ans après.
Alors ça c'est, oui, enfin Silke, pourquoi elle y revient
C'est pour constater quelque chose qui a été perdu.
Et puis aussi parce que c'est le bon moment pour pouvoir mettre les mots sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand on est en train de vivre les choses, c'est difficile de prendre du recul. Et là, en plus, elle est très jeune. Hein. À un moment donné, dans ses allers-retours entre le moment où il écrit et le moment qui est évoqué, le père lui demande ce qu'elle pense de l'art et tout. Et elle dit, si j'avais eu 20 ans de plus, j'aurais pu lui dire que la plus belle sculpture, c'était le pavé qu'on envoie à la figure des nantis ou quelque chose comme ça. Ça, évidemment, sur le moment, elle peut pas le dire. Enfin, toutes les réflexions, tous les petits commentaires comme ça qui sont faits, elle peut le faire seulement parce qu'elle a 40 ans. Elle aurait pas pu les faire à 20 ans. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à écrire le texte au présent. Et puis très vite, en fait, j'ai abandonné parce que ça m'empêchait justement de faire ces quelques allers-retours et ça me bloquait dans une seule temporalité.
Merci, Michel Laya.
Merci à vous.
Sans Silke, c'est le titre de votre nouveau roman. Il est publié aux éditions Zoé. Ce soir au son, c'était Pierre Monteil, Rafik Zénine à la réalisation. Merci à Camille André, Jeanne Aléos et Anna Baron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.
Cheval, fier et blessé.